Radio Okapi.
Identité culturelle. Radio Okapi.
Identité culturelle.
Messieurs, mesdames, bonjour. Merci d'écouter Radio Okapi. Aujourd'hui, les magazines Identité culturelle s'épanchent sur les rites traditionnels de résolution des conflits. Parce que les conflits sont inhérents à la nature humaine, comment étaient-ils réglés dans nos sociétés traditionnelles? C'est la question au centre de ces numéros. Nous serons avec deux notables de la communauté Hutu. Gachamba Emmanuel et Mahatane Maneno Jean Bosco vont nous expliquer les conflits qui existaient dans la communauté et comment ils étaient réglés. Je suis Rosalie Masikazawadi à la présentation de ces magazines. Bienvenue.
Radio Okapi.
À Goma.
Okapi.
Sur 95.5 FM.
Okapi.
Messieurs, mesdames, rebonjour. Selon ces notables, le problème n'est pas les conflits en soi, mais plutôt la manière de les gérer. Emmanuel Gachamba commence justement par l'existence des conflits dans les sociétés anciennes.
Un monde sans conflit n'existe pas. Et les conflits respectent les trois N, naturel, normal et neutre. Et donc, partout sur la Terre, des humains imparfaits, des conflits sont possibles. Et donc, dans l'ancien temps, des conflits ont existé entre les membres des communautés, entre les membres d'une communauté et d'autres. Et donc, c'est une donnée qui date de très longtemps.
Par exemple, dans la communauté Hutu, il y a des clans. Est-ce qu'il y avait des conflits entre les différents clans ou des conflits au sein des clans même?
Bien entendu, oui. Abasinga, Abagesera, Abasindi, Abazigaba, Abungura, Ababanda, Abagiri, qu'on appelle encore les Abega, Abachaba et d'autres clans. Entre les différents clans, il y avait parfois des conflits et qui se réglaient au sein des clans. Entre-temps, on pouvait trouver un Mugesera en conflit avec un autre et on pouvait trouver un Mungura en conflit avec un autre. Tout comme on pouvait trouver un Mugesera en conflit avec un Mungura, et là, ça sera interclanique. Et il y avait des personnes attitrées pour régler ces conflits.
De manière concrète, comment ces conflits étaient réglés?
La personne qui se sentait lésée allait voir les responsables du clan pour lui dire, voilà, tel a péché contre moi, peut-être au niveau du champ, et nous sommes voisins du champ, il est entré de quelques mètres chez moi, ou alors il a pris mon épouse, ou alors son enfant a cassé, a tué ma chèvre, ou alors telle famille, j'ai des informations qu'ils ont organisé un vol chez moi, ou alors il m'a injurié après avoir bu, et moi je ne saurais pas supporter, et au lieu de se rendre justice, je viens vous voir mon responsable. Et le responsable devait maintenant intéresser, devait aller chercher d'autres responsables, si c'est interclanique, ou alors clanique, il devait identifier d'autres sages. La sagesse, c'était par expérience, ou alors l'âge, certains talents. Il y a des personnes qui étaient choisies sur base de comment ils se faisaient mieux écouter par rapport aux autres. Et voilà, ce sont ces gens qui s'asseyaient. Toutes les deux parties se mettaient ensemble pour trouver des solutions aux conflits qui était identifié.
Alors, notable Mahatane et Maneno, Jean Bosco, les sages sont déjà assis. Comment s'est déroulée ces séances de règlement des conflits?
D'abord, la première des choses, il fallait maintenant chercher un modérateur. Les deux chefs des deux clans se mettaient à côté. Ils commencent maintenant à élaborer comment est-ce que le conflit sera réglé. Peut-être si on va demander une criche, c'est-à-dire dans notre langue, c'est Ikibindi, dans la langue communauté, Hutu, c'est Ikibindi, c'est-à-dire chaque personne qui a un conflit avec son ami, ou bien je dirais, il peut l'appeler son ennemi, ou bien quelqu'un qui a un conflit avec, on lui demande une somme équivalente à une criche, on le met là. Alors, la personne qui a un problème avec son adversaire, il expose maintenant son problème. Alors, après avoir expliqué tout ce qu'il a comme conflit avec son ami, l'autre aussi doit maintenant répondre à ces accusations. Après avoir répondu à ces accusations, on pose des questions à toutes les parties, pour les deux parties. C'est après maintenant, le vieux sage se met à côté, ils examinent maintenant les accusations portées contre la personne et les défenses de l'autre. Et maintenant, si on constate que quelqu'un qui est venu accuser, qui peut-être n'a pas raison, on doit maintenant lui dire, cher frère, vous avez accusé, mais les accusations n'ont pas apporté des éléments suffisants pour charger votre frère. Alors, on lui demande de demander pardon parce qu'il a accusé quelqu'un qui n'a pas de tort. Si c'est l'accusé qui a tort, qu'est-ce qu'on faisait maintenant? On devait maintenant demander le perdant de chercher la boisson. Il met cette boisson au milieu des hommes, au milieu des sages, et on lui exige de demander pardon à celui qui l'a offensé. C'est comme ça qu'on faisait auparavant.
Mais est-ce que tous les jugements des sages étaient acceptés? Est-ce qu'il y avait des résistances?
La plupart des fois, des conflits réglés par les sages n'ont pas de sentiments. Parce que là, vous n'allez corrompre personne. Il n'y a personne qui a besoin de se faire corrompre pour qu'il intervienne pour ou contre quelqu'un. Et donc, toutes les décisions émanant des sages étaient des décisions qui étaient vraies. C'était vraiment une vérité crue. C'est pourquoi on ne pouvait, comme ce n'est pas comme actuellement, il y a des gens qui cherchent des arguments rien que pour charger, tout en sachant que c'est faux. Voilà l'importance d'un questionnaire qui était posé pour des éclaircissements auprès de ceux qui étaient en conflit. C'est pourquoi toutes les décisions étaient consommées, vraiment. Et quand les sages ont déjà dit, demander pardon à travers ceci, amener un coq, amener une chèvre, amener une cruche, des moussourourou ou alors des cassixi, vous devez obtempérer. Et donc c'est la majorité qui... Évidemment, certains, il y a certains qui sont difficiles à gérer et qui refusaient, qui pouvaient résister. Ils disent, bon, moi je ne suis pas d'accord avec vous. Et celui-là, si vraiment il refuse, les sages, les responsables du clan étaient chargés de prendre un tambour. Ils circulent dans toutes les avenues, dans toutes les agglomérations, en train de battre au tambour et en train d'alerter les gens. Très tôt le matin, quand on se rassure que chacun est encore au beau fixe, il n'y a personne qui a déjà bu, et c'est très tôt le matin, à partir de 5 heures, on devait battre au tambour en train de circuler pour dire, de la même manière qu'on le faisait pour dire aux gens qu'il y a Salongo, que quelqu'un est mort, il n'y avait pas de radio à cette époque-là, il n'y a pas de prison, il n'y a pas de parquet, il n'y a pas d'auditorat. Et donc, les sages devaient aller dire partout que tel qui a refusé la décision des sages ne venait jamais chez lui, qu'il n'arrive jamais chez quelqu'un, que personne ne les reçoive dans son toit, qu'il n'arrive pas dans une cérémonie de deuil ou de dot, qui ne fasse objet de rien qui peut le permettre d'aller en public, qu'il se sente isolé. Et c'est comme l'excommunion.
Et comment on appelle ça?
Il est excommunié, donc nous kumucha, kumucha mumuryango, evakamucha, et donc on l'excommunie jusqu'à ce que, quand la nuit, ou beaucoup de nuits porteront conseil, alors parfois on le voyait un an après, quelques mois après, quelques semaines après, il y revenait maintenant obtempérer aux décisions. Après s'être senti isolé, il y a des gens qui maigrissaient de ça. Il n'y a personne qui vous salue. En route, au marché, personne ne vous vend, s'il est informé. Sauf des gens qui ne sont pas informés. Et donc, personne n'achète. Hein? Et voilà comment on disciplinait les gens. Vous amenez des choses au marché, les gens refusent de les acheter. Parce que vous avez déjà été déclaré par les sages, personne non ingrata, et donc excommunié. Même les gens qui n'avaient pas été informés, ceux qui sont informés leur disent Uno muntu abaye igicibwa mu muryango. Ça veut dire il a déjà été excommunié en famille parce qu'il a refusé d'obtempérer aux décisions des sages qui ont pourtant décidé sagement et sans parti pris.
Monsieur Maratane Moumanino, vous voulez placer un mot?
Oui, merci. Alors, ce qu'il vient de dire, qu'une personne qui refusait les décisions des sages et qu'il était excommunié, cela montrer donc même à toute personne aussi qui devrait maintenant se libérer contre les sages. Tout le monde avait peur d'être excommunié par les sages. Raison pour laquelle le conflit n'était pas vraiment beaucoup dans des familles, parce que chacun avait peur d'être excommunié un jour ou bien d'être amendé par les sages. Donc actuellement, vous voyez, les jeunes, les gens donc s'en foutent à leur communauté. Parce que actuellement, les décisions des sages dans l'ancien temps ne sont pas actuellement appliquées suite à la corruption. Même les droits de l'homme, donc quand vous excommuniez quelqu'un, il y a des intervenants, des structures de société qui interviennent, etc. Alors, vous voyez que maintenant, il y a une libertinage actuellement. Mais auparavant, tout le monde respectait, en tout cas les clans, respectait les décisions des sages.
Okapi, Metabendi Yamani.
Monsieur Emmanuel Gachamba, vous êtes président de la communauté Hutu au Nord Kivu,
Sud Kivu, Maniema et Ituri.
Maniema et Ituri. Donc, vous êtes le président de la communauté Hutu dans 4 provinces de l'Est. Oui. Est-ce que, comme l'a dit monsieur Mahatani, vous sentez que vous avez encore le poids d'un sage de la communauté comme avant ou aujourd'hui il faut lutter pour convaincre les jeunes?
En tout cas, il faut lutter actuellement, ça ne ressemble pas comme avant. Parce que ce que les sages disaient, si ce n'était pas accepté, en tout cas c'était grave. Et cela a permis aux gens de très bien vivre ensemble, de se respecter mutuellement, de ne pas avoir le gros dos, de ne pas avoir un orgueil d'argent. L'orgueil des champs, l'orgueil du nombre d'enfants. Chacun devait se soumettre aux décisions des sages. Personne ne pouvait faire un règlement de compte parce qu'il sait que les sages vont s'en occuper. Mais maintenant, actuellement, il y a eu tous ces aspects modernistes qui sont en train de modifier les décisions, qui sont en train de modifier les comportements coutumiers. Et mon poids, en tout cas, n'est pas aussi grand que les poids d'auparavant, parce qu'actuellement, il y a l'aspect connaissance, il y a des influences, il y a des interférences politiques parfois. Anciennement, il n'y avait pas de politique. Tout était vérité. Il n'y a personne qui pouvait dire, bon, moi, je sonne au téléphone, ces messieurs-là, vous devez les libérer, quel que soit ce qu'il a fait. Ça ne pouvait pas se faire. Les sages avait vraiment de la valeur.
Mais est-ce que vous continuez, au moins au niveau de la communauté, à régler quelques conflits?
En effet, c'est ça la mission principale d'un président d'une association culturelle chez nous, Igisenge, de la communauté Hutu, parce que je ne peux pas m'impliquer dans les données politiques. Moi, je suis impliqué dans les données sociales, je suis impliqué dans les règlements des conflits communautaires et des règlements des conflits intercommunautaires. Un Mhutu en conflit avec un Muluba, un Mhutu en conflit avec un Mhunde, un Mhutu en conflit avec un Munande, un Mhutu en conflit avec un Mutusi, un Mhutu en conflit avec un autre Mhutu. Voilà ce genre de conflits pour lesquels nous avons déjà mobilisé beaucoup de sages, des Masisi, des Kalehe, des Lituri, des Rutshuru, de Nyiragongo. Selon la nature des problèmes, ce sont des problèmes miniers, ce sont des problèmes d'ordre éducatif, des conflits fonciers. Et nous savons catégoriser les conflits et donc rendre disponibles des sages qui ont la maîtrise de certains aspects des conflits. Donc nous avons un conseil des sages au niveau provincial. Et nous avons des conseils des sages au niveau de chaque territoire. Et ces conseillers des sages, ils savent nous chercher des personnes attitrées dans tel ou tel autre domaine, des gens qui ont de l'expérience, qui ont des talents visibles, et ils nous aident à régler des conflits. Nous avons donc ce qu'on appelle Baraza, Igisenge, c'est-à-dire une paillote de paix, où des conflits sont réglés régulièrement. À Rutshuru, réglé régulièrement. À Goma, réglé régulièrement. À Masisi, réglé régulièrement. À Kalehe, et des ressortissants de partout là qui vivent à Goma, En tout cas, un conflit de quelqu'un décalé avec quelqu'un d'ici. En tout cas, nous essayons d'appeler les sages de Calais, les sages de Rutshuru, les sages de partout. Et même un conflit entre Mouhutu Munande, je vois le président de Nande, je lui présente le problème, il invite les siens, j'invite les miens, et nous invitons les sages de partout, et nous nous asseyons pour trouver solution durable à ces problèmes. Nous sommes déjà dans la dynamique des règlements des conflits communautaires et intercommunautaires dans la paix. Il y a même des conflits que nous collaborons. Actuellement, nous collaborons avec, à travers notre avocat conseil. Il nous aide à attirer certains dossiers qui ne sont pas graves. Évidemment, des dossiers de viol, on ne peut pas y entrer. Des dossiers de gens, des tueries par exemple. Hein? Mais des dossiers vraiment fonciers, des dossiers coutumiers, nous essayons de les ramener. Depuis l'auditorat, depuis les parquets, nous les ramenons en famille et nous sommes satisfaits de constater que même si le poids a diminué, ce n'est pas comme auparavant. Il y a des décisions qu'on ne peut plus prendre, par exemple pour radier quelqu'un et demander à quelqu'un de ne pas être salué par les gens. C'est une grande décision que je ne peux pas prendre sans organiser une assemblée générale, voyez-vous. Mais avant, les sages avaient vraiment des décisions beaucoup plus acceptées par rapport à moi. Mais au moins, à l'heure qu'il est, je suis satisfait de constater que sans beaucoup dépenser, et puis sans enfoncer les gens dans des conflits, après avoir beaucoup dépensé à l'auditorat et partout, en tout cas, il y a des mensonges qui frisent de partout. Actuellement, par exemple, il suffit d'avoir une dette qui dure longtemps de quelqu'un pour que vous puissiez les payer vite, il va dire aux militaires que vous êtes collaborateur du M23. Alors qu'il n'y a rien de cela. Voilà pourquoi nous sommes en train d'aller expliquer aux autorités. Ces gens, nous connaissons leurs conflits. Les conflits, c'est une dette. Sinon, ils nous acceptent de nous donner les gens pour qu'on règle ces conflits à l'amiable et en famille.
Yeah.
C'était une chanson de l'artiste Brian Baïcha, un jeune engagé dans la promotion de la culture Hutu. Vous écoutez les magazines Identité culturelle sur Radio Okapi. Nous parlons des rites traditionnels, des règlements des conflits dans la communauté Hutu. Comment maintenant capitaliser ces rites traditionnels des règlements des conflits dans la gestion des conflits actuels? Nos invités, Mahatane Manino Jean Bosco et Gachamba Emmanuel, pensent qu'il faut valoriser l'éducation à la paix comme dans l'ancien temps.
Comme on venait de le dire, il y avait des termes qu'on devrait vraiment respecter. Et ces termes-là qu'on devrait respecter, c'est le terme normalement que les communautés, auparavant notre communauté, devraient chaque fois enseigner à leurs enfants. Par exemple, si on pouvait dire Umanikagatiwi chaye, Kwajaku kamanura, Kakakunanira. Que signifie cela? Quand vous vous engagez en conflit avec quelqu'un, toi tu crois que peut-être tu vas le neutraliser dans un laps de temps. Mais vu que le conflit est ouvert, lui aussi doit chercher les moyens de défense. C'est-à-dire, à la fin des comptes, vous verrez que c'est difficile, peut-être à la fin de compte, c'est vous qui êtes maintenant en tort. Alors, c'est ce qui signifie que c'est-à-dire, c'est facile d'acquiser, mais c'est difficile de gagner le procès. C'est facile de commencer le conflit, mais c'est difficile aussi de le gagner.
Je le complète en disant Kumanikagati wichaye, okakamanura, ohagaze. Voyez-vous, vous êtes assis, mais lorsque vous voulez enlever ce que vous avez mis, il faut vous mettre debout. Donc, vous pouvez engager un conflit, vous pensez, bon, pour battre ces messieurs, et d'ailleurs je suis fort, vous pouvez croire que monsieur, je les neutralise dans un laps. Mais quand vous l'attaquez, vous trouvez que sa résistance est plus farouche que la tienne, et vous vous engagez dans des dépenses lourdes, alors que un conflit pouvait être réglé en famille, sans trop de dépenses. Et vous allez rester unis. Aussi, l'intelligence était bonne. Malheureusement, vous n'êtes pas les seuls intelligents. Hein? C'est pourquoi on dit à malin, malin est demi. Hein? Vous pouvez vous croire être intelligent, mais vous ne savez pas ce que l'autre est aussi. Et c'est pourquoi, intelligent soit-il, il faut s'adapter à la vie des autres. Et donc, par rapport à ça, les gens devaient comprendre que tout humain doit se sentir être en mesure d'être complété par un autre. C'est-à-dire, le Mouhoutou, seul, il ne peut rien. Il peut même aller, évidemment, il peut aller seulement vite. Mais ensemble, avec tous les autres du monde, les Mouhoutou et les autres peuvent aller très loin. Et puis, la paix est importante. Parce qu'avec la paix, sans épée, on a le pain. C'est important que les gens les comprennent.
Comme le disait Mahatane, il fallait éduquer les enfants pour que les enfants soient tournés plus vers la paix que vers les conflits.
Oui, on doit vraiment éduquer en se basant sur la sanction. La sanction a deux aspects. Le premier aspect de la sanction, c'est la récompense. Le deuxième aspect, c'est la punition. Récompenser des bons actes, des meilleurs actes, et punir ceux qui se comportent mal. Et entre-temps, nos jeunes doivent être éduqués au sens de la non-violence. Tout acte de violence devait être réprimé. Imaginez les gens qui commencent à créer des ennuis interindividuels. Un conflit entre le Rwanda et le Congo, ça commence à prendre une tournure des individus. Mes chers amis, qu'est-ce que les individus viennent faire dans un conflit entre deux pays? Donc, les gens devaient comprendre plutôt qu'on ne peut pas s'attaquer à un individu par rapport à sa morphologie, parce qu'on pense qu'il est Rwandais. Parce qu'on pense que son nom, d'ailleurs, ressemble à un nom de Rwandais. Parce qu'il s'exprime dans une langue qui Hutu, par exemple. Et on commence à l'attaquer, on dit non, d'ailleurs, vous tous, on vous appelle des Rwandais. Et donc, tout acte de violence devait être réprimé. Nos jeunes devaient se remettre en cause, réfléchir doublement avant d'agir. Ils doivent s'attendre à être récompensés en cas de bons actes et à être punis en cas de mauvais actes.
Merci. Nous allons terminer avec vous, notable Mahatani Maneno Jean Bosco.
Merci beaucoup. Je voudrais aussi ajouter à ce que le président vient de dire. Normalement, nos communautés, ce n'est pas seulement la communauté Hutu, la communauté Hunde, Tembo, etc. Les anciens vieux sages avaient vraiment des sagesses extraordinaires. Mais actuellement, parmi aussi les vieux, ou bien les responsables des communautés, il y a parmi eux qui sensibilisent aussi leurs enfants à la culture de la haine contre d'autres communautés X. Je dirais communauté X. Je recommanderais à toutes les communautés de cultiver la culture de tolérance, culture de cohabitation, cohabitation intercommunautaire, enseigner leurs enfants à vivre ensemble comme dans l'ancien temps.
C'est la fin de ce numéro du magazine Identité culturelle. Nous avons parlé aujourd'hui des rites traditionnels, des règlements des conflits. Nous étions avec Gachamba Emmanuel, président de la communauté Hutu dans les provinces de l'Est de la RDC, et Mahatani Maneno Jean Bosco, un autre notable Hutu. Nous disons merci à nos invités. Nous allons poursuivre ces sujets avec les autres communautés. Ce magazine a été produit sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Je suis Rosalie Masikazawadi. Je vous remercie de nous avoir suivis. Vous pouvez réécouter ces magazines sur notre site www.radiookapi.net. Portez-vous bien, à très bientôt.